aux femmes. Chronique du matrimoine breton.
Pendant longtemps, l'idée que cette culture du quotidien, cette culture populaire, ait été collectée et transmise uniquement au sein des milieux paysans, était largement répandue. Jusqu'au jour où l'on découvrit la figure d'Angelina Duplessis. Caroline Lemarquer et Vincent Moirel, de l'association d'Astume, m'ont parlé de cette femme rennaise issue de la haute bourgeoisie.
L'histoire est intéressante. Alors, la première chose qui est intéressante, c'est que ce soit non seulement quelqu'un de la bourgeoisie qui a fait la collecte, parce que ça, au 19e siècle, début 20e, c'était souvent le cas, c'était les érudits, les folkloristes qui faisaient des collectes, mais qu'elle a fait la collecte au sein de sa propre famille, et donc les gens dont elle tenait les chansons et les contes, c'était sa mère et ses deux grands-mères. Et peut-être même une arrière-grand-mère, si je me souviens bien, qu'elle a dû connaître un peu.
Aux environs de 1900, Angelina Duplessis recueillait tous les contes qu'elle entendait de ses deux grands-mères, ainsi que quelques chansons venant des proches de sa famille.
Et quand on a découvert ce fonds-là, cette collecte-là, on s'est dit, c'est pas possible, elle était d'un milieu vraiment de la très haute bourgeoisie rennaise, ça doit venir, les chansons devaient venir peut-être, en remontant deux ou trois générations, c'était peut-être des paysans, ou ils avaient appris ça avec des servantes, etc. Et en fait, en remontant toute la généalogie, sur plusieurs générations, on a dû réussir à remonter jusqu'au milieu du 18e au moins, ça reste vraiment de la bourgeoisie ou de la haute bourgeoisie sur plusieurs générations. Donc c'est vraiment une preuve documentée où on sait qu'il y a eu une pratique de ces chansons-là et de ces contes-là dans la bourgeoisie, alors que souvent on a tendance à penser que les traditions orales auxquelles on s'intéresse, c'est uniquement le milieu paysan, alors que les milieux de la haute société bourgeoise, etc., méprisaient ça. Ça reste vrai sans doute dans beaucoup de cas, mais là, ça prouve que c'était pas si simple que ça, qu'il y avait des familles bourgeoises qui pouvaient pratiquer ces choses-là, et c'était plus complexe qu'on pourrait le penser, quoi. Et au point de vue des femmes, alors c'est vraiment intéressant, parce que pour le coup, c'est une des rares femmes à avoir fait des collectes à cette époque-là. C'est des collectes qui n'ont pas été publiées à l'époque, peut-être justement parce que c'était moins facile pour une femme de le faire.
Mais ses sources venaient uniquement du cercle familial et amical.
Ses informatrices sont donc de sa famille, c'est que des femmes. Donc sa mère, ses deux grands-mères, voire son arrière-grand-mère. Il doit y avoir des tantes aussi, quelquefois, de citer dans les sources. Et j'ai pu rencontrer son arrière-petite-fille, qui était encore vivante il y a quelques années, qui avait plus de 80 ans. Donc toujours milieu bourgeois, elle vivait dans un très beau château. Elle se souvenait avoir entendu sa grand-mère chanter quelques-unes des chansons, pas toutes, mais quelques-unes, et quelques fragments de contes. Et donc la grand-mère en question, c'était la fille d'Angelina Duplessis. Donc on a une chaîne sur 7-8 générations de femmes attestant une pratique de ces traditions orales-là en milieu bourgeois et transmission vraiment par les femmes, quoi.
Et comment ça se fait qu'on a entendu parler d'elle si tardivement? Il n'y avait jamais eu de publication de ses collections de chansons et contes?
Il se trouve qu'elle a publié un recueil de contes, mais c'était sous pseudonyme. Et clairement, dans la préface, il était clair qu'elle ne voulait pas être identifiée. On peut se poser la question, est-ce que c'était effectivement, ça ne se faisait pas dans son milieu, ou ça ne se faisait pas en tant que femme, de s'afficher comme ça? Ou est-ce qu'il y avait quelques gênes, quel que ce soit, à publier des contes, alors qu'elle était d'un milieu? On peut se poser la question, alors qu'on a vu par ailleurs d'autres auteurs, comme Madame de Saint-Prix, revendiquer la paternité de leur recueil de contes. Il y a aussi ce cahier de chansons, c'est un cahier manuscrit, qui n'a pas été publié, qui a été rédigé, disons qu'il a été rédigé par son mari après son décès. Elle est décédée prématurément. Visiblement, il ne s'agissait pas de le publier. C'était plutôt une belle publication manuscrite pour l'usage de la famille, si vous voulez. Et donc, elle est restée dans la discrétion alors qu'elle côtoyait des folkloristes. On sait que notamment, elle a rencontré Anatole Lebras. Ça l'intéressait, tout ce qui se passait au niveau de recueil de traditions orales à ce moment-là. Mais voilà, elle ne s'est pas manifestée.
Et des femmes qui ne se sont pas manifestées, comme Angelina Duplessis, il y en a beaucoup. Finalement, tomber dans la discrétion éternelle ou laisser une trace, ça se joue à peu de choses. Il peut parfois suffire d'une rencontre. C'est ce qui est arrivé à Marie-Yvonne Lagrande, qui a croisé le chemin d'Anatole Lebras. Une histoire à suivre dans le prochain épisode.
L'île aux femmes, chronique du matrimoine breton. Une série de reportages réalisés par la Corlab en partenariat avec HF Bretagne. Écoutez sur ligne-o-femme.com.